Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 27 décembre 2022. En RDC, des enlèvements de civils signalés lors de combats entre les rebelles du M23 et l'armée. Première visite depuis 2 ans d'une délégation gouvernementale éthiopienne dans la province rebelle du Tigré. Au Sénégal, l'état de santé du journaliste et chroniqueur Pape Alain Niang inquiète ses confrères et des associations de la société civile.
Son état de santé est très préoccupant parce qu'il a été extrait de sa cellule le samedi soir pour être acheminé à l'hôpital principal contre son gré, contre sa volonté.
Nous retrouverons Ibrahima Lissa Faye, président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne du Sénégal dans la page magazine. En Israël, un vote est prévu au Parlement jeudi sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ici aux États-Unis, le bilan de la violente tempête hivernale s'alourdit à 50 de morts. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Eco, le site de la nouvelle zone industrielle ivoirienne d'Akoupé, a été inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. Et les sports, les groupes de la CAN 2023 des moins de 20 ans viennent d'être confirmés à l'issue du tirage au sort effectué au Caire en Égypte. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Eh bien, des combats ont opposé les rebelles du groupe M23 à l'armée congolaise, mais aussi à une milice d'autodéfense dans l'est de la République démocratique du Congo. Une partie du pays où des cas d'enlèvement de civils par les M23 ont été rapportés lundi par des sources locales. Les précisions de John Lindon.
Ces affrontements qui ont commencé dimanche dans les groupements de Bichoucha et de Tongo se sont poursuivis lundi. Dimanche, il y a eu des combats entre nous et le M23 dans le Bichoucha. Aujourd'hui, à Marangara, des combats se sont poursuivis entre les groupes armés patriotes et le M23, car nos forces ne sont pas à Tongo, a déclaré une source militaire qui a requis l'anonymat. À Tongo et ses environs, 50 de personnes accusées de collaborer avec le Niatura, une milice congolaise anti-M23 et le FDLR, un groupe armé d'origine hutu-rwandaise, ont été arrêtés. Seules 15, notamment des femmes, ont été libérées, selon le président de la société civile locale. Au moins 18 civils, accusés d'être de connivence avec les deux groupes armés, étaient toujours entre les mains des rebelles du M23, a-t-il ajouté. Vendredi, le M23 avait annoncé son retrait d'une position stratégique près de Goma, mais l'armée a qualifié de leurre ce désengagement.
Deux officiers de l'armée gambienne liés à un complot présumé visant à renverser le gouvernement du président Adama Barrow ont été arrêtés au cours du week-end, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement gambien. Banjul a fait savoir le 21 décembre qu'un groupe de soldats avait été arrêté dans le cadre d'une tentative de coup d'État. 7 personnes, dont 2 officiers et 5 soldats, ont jusqu'à présent été arrêtés dans le cadre de ce complot présumé qui a été condamné par les dirigeants de la CDAO et ceux d'Afrique centrale. Dans l'est du Burkina Faso, au moins 10 passagers d'un bus ont été tués lors de l'explosion de leur véhicule dimanche causée par une mine, a indiqué lundi le gouverneur de cette région frontalière du Niger. Un minibus de transport en commun a heurté une mine sur l'axe Fadangourma Kanchari, à hauteur du village de Bougui. D'après des sources médicales, le bilan pourrait s'alourdir, d'autres passagers étant portés disparus. Première visite depuis 2 ans d'une délégation gouvernementale éthiopienne dans la province rebelle du Tigré. Elle doit superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé à Pretoria, a fait savoir le service de communication du gouvernement. Les précisions de Timothée Donagmaï.
Conduite par le président de la Chambre des représentants, Tagese Chafo, et composée de plusieurs ministres, la délégation a été accueillie lundi par les autorités régionales dissidentes, une preuve que l'accord de paix est sur la bonne voie et progresse, estime le gouvernement fédéral. L'accord de Pretoria vise à mettre un terme à 2 ans d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le nord de l'Éthiopie et plongé cette région dans une grave crise humanitaire. Le document prévoit entre autres le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette province coupée du monde depuis plus d'un an. Sa signature a permis l'arrêt des hostilités. Les rebelles affirment avoir désengagé 65% de leurs combattants des lignes de front. Ils dénoncent cependant la présence persistante de l'armée érythréenne ainsi que celle de forces de sécurité et de milices de la région éthiopienne de l'Amara qui ont appuyé l'armée fédérale dans le conflit, mais étaient absentes des discussions de Pretoria.
Le bilan de l'explosion d'un camion citerne près de Johannesburg samedi s'est encore aggravé, passant à 18 mois, ont annoncé les autorités régionales en Afrique du Sud dans un communiqué. Les autorités de Tripoli ont relâché un pilote des forces de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, détenu depuis 2019 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre camps rivaux, capturé en 2019 lors de l'offensive menée par le maréchal Haftar pour conquérir Tripoli. L'homme a été libéré en échange de 15 prisonniers de l'Ouest libyen qui étaient détenus par le camp de l'Est, ont précisé les médias, citant des sources gouvernementales et militaires. L'échange a eu lieu à Al-Shouaref, une petite localité dans la région de Djoufra, dans le centre de la Libye, zone sous contrôle militaire de Haftar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre désigné israélien Benjamin Netanyahou a convoqué un vote jeudi au Parlement sur l'investiture de son nouveau gouvernement, a annoncé lundi le président de la Knesset après près de deux mois de dissension au sein de la coalition. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le bloc conservateur composé du Likoud et de ses alliés nationalistes et religieux a remporté une nette victoire aux élections législatives début novembre, mais Benjamin Netanyahou a eu maille à partir avec les membres de la coalition pour parvenir à un équilibre. Les alliés exigent en effet une part importante du pouvoir en échange de leur soutien. Avant le vote du Parlement et la prestation de serment officiel du nouveau gouvernement, Benjamin Netanyahou devra présenter officiellement les membres de son cabinet. Le premier ministre désigné, qui a promis de gouverner pour tous les Israéliens, sera à la tête de l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, des portefeuilles ministériels majeurs devant revenir à la droite dure. Des Israéliens se sont alarmés des déclarations d'un certain nombre de membres d'extrême droite de la coalition gouvernementale en faveur d'une révision des lois anti-discrimination. Le président Isaac Herzog a déclaré dimanche que toute atteinte aux droits des citoyens israéliens fondés sur leur identité ou de leurs valeurs serait contraire aux traditions démocratiques et éthiques du pays.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la situation sur le front du Donbass dans l'est de l'Ukraine était difficile et pénible et qu'elle exigeait toute la force et la concentration de la nation. Le président ukrainien a par ailleurs indiqué que près de 9 millions de personnes restaient privées d'électricité après les attaques russes contre les infrastructures énergétiques. La Russie, en revanche, a accusé hier l'Ukraine d'attaquer son territoire, notamment en lançant un drone contre une base aérienne en territoire russe à des centaines de kilomètres du front. Deuxième opération du genre ce mois-ci. Les autorités ukrainiennes n'ont fait aucun commentaire sur ces deux incidents. Ici aux États-Unis, la violente tempête hivernale ayant frappé les États-Unis ces derniers jours a causé la mort d'au moins 47 personnes dans le pays, dont 25 dans un seul comté de l'État de New York. Selon les autorités, ce qu'elles appellent le blizzard du siècle est loin d'être terminé. Le point avec Abdourahman Dia.
Il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé, a mis en garde la gouverneure de New York, Kathy Hochul, précisant que jusqu'à 30 cm de neige devait encore tomber. C'est clairement le blizzard du siècle, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse depuis la ville de Buffalo. L'ouest de l'État de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli durant le week-end de Noël sous des mètres de neige, subissant des températures polaires depuis la semaine dernière. Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors et d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige alors que les températures sont encore glaciales selon les autorités. « Mon cœur est avec ceux ayant perdu un proche », a tweeté lundi le président américain Joe Biden, indiquant s'être entretenu au téléphone avec la gouverneure de New York et promettant de fournir les ressources fédérales nécessaires. Des dizaines de millions d'Américains ont vu leur week-end de Noël chamboulé par des coupures de courant massives, des routes devenues impraticables et des milliers de vols annulés, provoquant le chaos dans les aéroports. Rien qu'hier lundi, environ 3500 vols étaient encore annulés aux États-Unis, selon le site de suivi FlightAware.com.
Et la durée du service militaire obligatoire à Taïwan va être portée à 1 an contre 4 mois actuellement, a fait savoir un haut représentant du gouvernement, indiquant que le projet serait officialisé ce mardi sur fond de pression militaire croissante de la Chine. La présidente Tsai Ing-wen tiendra dans la journée une réunion de sécurité nationale afin de discuter de moyens de renforcer les défenses civiles de l'île démocratique, ont déclaré ses services. Et puis la Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du Covid-0 qui isolait le pays depuis près de 3 ans. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Abdourahmane Dia.
Le premier ministre ivoirien Patrick Achi a inauguré les parcelles aménagées de 127 et 234 hectares de la première phase de la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zedi PK24. Le ministre en charge de l'industrie, Souleymane Diarasouba, a indiqué que ce vaste projet en différentes phases vise à faire d'Abidjan le hub industriel de la sous-région, conformément à la vision du président Alassane Ouattara. Près de 90 milliards de francs CFA sont injectés dans cette phase réalisée avec une société chinoise, un groupe tunisien présent dans plusieurs autres pays africains et 3 entreprises locales. Une faible pluviométrie et les effets de la sécheresse dans la plupart des régions cacaoyères de Côte d'Ivoire pourraient avoir un impact sur les récoltes intermédiaires d'avril à septembre si les conditions persistent, ont déclaré des agriculteurs interrogés par Reuters lundi. Le premier producteur mondial de cacao est en saison sèche, ce qui s'étend de la mi-novembre à mars, lorsque les pluies sont faibles et rares. Entre décembre et mars, le vent sec de l'Harmattan souffle en provenance du désert du Sahara. Enfin, le Togo va bénéficier d'une enveloppe de 3,73 millions d'euros après un accord avec le Fonds africain de développement. Cela va permettre à Lomé de développer des mini-réseaux électriques dans 317 localités.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonjour Nanit.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous. Les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Total Energy 2023, viennent d'être confirmés à l'issue du tirage au sort effectué vendredi soir au Caire en Égypte, où se déroulera la compétition du 19 février au 11 mars 2023. Les villes hôtes sont le Caire pour le groupe A, qui comprend l'Égypte, le Mozambique, le Sénégal et le Nigeria. Le groupe B, qui comprend l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Congo, jouera à Ismaïla. Et enfin, le groupe C, qui inclut la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie, dans la ville d'Alexandrie. Le tournoi à 12 nations débutera par un match d'ouverture entre les hôtes égyptiens et les mozambicains le dimanche 19 février 2023 à 16h heure locale. Le groupe de travail multipartite sur l'intégrité créé par la FIFA pour superviser tous les matchs disputés pendant la Coupe du Monde au Qatar afin de détecter de possibles incidents de manipulation de matchs et les problèmes liés à l'intégrité a achevé ses travaux avec succès le 22 décembre 2022. Aucun cas de manipulation n'a été identifié. Dans le cadre de son travail, le groupe a analysé les rapports de surveillance des marchés de paris légaux, mener des enquêtes multijuridictionnelles et examiner la surveillance des sites de compétition pour tout comportement suspect. Aucune menace de manipulation de match pour aucun jeu joué pendant le tournoi n'a été détectée. La FIFA veut continuer de travailler ainsi afin de protéger les futurs tournois, à commencer par la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023. Elle continuera également à développer ses stratégies d'intégrité avec les confédérations, les associations membres et d'autres acteurs de l'intégrité dans la lutte contre la manipulation des matchs. Ruée sans précédent des Argentins vers le nouveau maillot de leur sélection nationale, frappé de sa 3e étoile après le trophée remporté au Qatar. Une aubaine pour Adidas, l'équipementier de tout nouveau champion du monde. Le site mis en place pour les commandes en ligne a été rapidement saturé au point où il n'était plus possible de s'y inscrire. Adidas a fait savoir que le premier lot de maillots mis en vente a été épuisé, assurant que le stock sera réapprovisionné dans les semaines à venir. Une information qui n'est pas du tout du goût des fans argentins impatients d'arborer le nouveau maillot de leur sélection nationale. Adidas n'a pas précisé le nombre de maillots vendus lundi.
Page de sport VOA Afrique, signée Nani Talani. À tout à l'heure.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, l'état de santé du journaliste et chroniqueur Pape Alé Niang inquiète ses confrères et des associations de la société civile. En grève de la faim depuis sa deuxième arrestation le 20 décembre, il a été évacué à l'hôpital au cours du week-end dernier. Le parquet lui reproche d'avoir violé les termes de son contrôle judiciaire. Il avait été arrêté pour une première fois en novembre pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Pour en savoir plus, Abdourahman Dia, adjoint à Dakar, Ibrahima Ali Safai, président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne au Sénégal.
Son état de santé est très préoccupant parce qu'il a été extrait de sa cellule le samedi soir pour être acheminé à l'hôpital principal contre son gré, contre sa volonté, parce qu'en réalité, il n'avait jamais voulu quitter sa cellule depuis qu'il a été reconduit en prison. Vraiment, nous avons peur et nous sommes très inquiets parce que tout peut arriver. Et malheureusement, en fait, l'État fait toujours la sourde oreille et ne fait rien, en tout cas, pour qu'on aille vers la décrispation.
Alors, il a été libéré après une mobilisation de la presse et d'autres organisations de la société civile. Il a de nouveau été arrêté. Les autorités judiciaires lui reprochent d'avoir violé les termes de sa liberté provisoire. Cette nouvelle arrestation qui a conduit aujourd'hui à son hospitalisation, est-elle justifiée selon vous?
Non, du tout. Il n'a pas du tout violé les conditions du contrôle judiciaire parce qu'en réalité, il lui reproche d'avoir parlé du dossier, en tout cas de tenter de divulguer des éléments du dossier. Or, il n'en est rien du tout. Les deux lives qu'il a fait avec Mola Morgan et avec un autre activiste, il a juste en tout cas parlé des conditions de son arrestation qui ont été rocambolesques, qui ont été quand même gravissime pour un état de droit, parce qu'il a été enlevé au moment où il était en train de réparer les pneus de sa voiture. Et puis aussi, il a aussi parlé de la situation des activistes détenus en prison depuis plus de 3 mois maintenant, de plus de 4 mois maintenant.
Vous pensez que la liberté d'expression, la liberté de la presse sont menacées au Sénégal?
Ah oui, elles sont menacées en réalité, parce que depuis un bon moment, il y a des agressions, il y a des brutalités contre des journalistes, une sorte de censure épais de Damoclès qui pend sur la tête des citoyens pour qu'ils ne voient pas certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, quand, disons, des citoyens ou même des journalistes parlent, ils se disent « Ah, il faut me retrouver en prison parce qu'il faut créer un dossier factice sur moi et me placer sous mandat de dépôt sans que personne ne lève le petit doigt. » Et donc, ce qui fait que les gens sont dans une psychose. Les gens, en fait, pratiquent même l'autocensure pour éviter en tout cas d'avoir maille à partir avec la justice. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous êtes convoqué par le procureur, et facilement il va descendre le mandat de dépôt. Maintenant, dans une justice où le mandat de dépôt est vraiment quasi automatique, mais là, il y a quand même, disons, à s'inquiéter.
Ibrahima Ali Safai, président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Une mission d'enquête chargée de faire la lumière sur les manifestations violemment réprimées du 20 octobre dernier séjourne depuis quelques jours au Tchad. Ces enquêteurs multiplient des rencontres avec les acteurs politiques et ceux de la société civile pour situer les responsabilités des acteurs impliqués dans ces événements. Cette mission est jugée peu crédible par certains Tchadiens. André Code Majinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
On a rencontré, on a eu des centres de travail avec plusieurs partenaires, des institutions publiques et privées. On a rencontré le parti politique, les transformateurs. On a échangé sur de nombreux points avec eux.
Crispin Antoine Kinyamba Dandé, membre de la mission d'enquête. La réaction du bureau exécutif du parti, les transformateurs, ne se fait pas attendre. Pour l'artiste Jasrabi Kimassoum alias Raïs Kim, porte-parole du parti, les transformateurs, la direction n'a mandaté aucune personne pour rencontrer les membres de la mission.
Déjà avec cette mise en scène, que peut bien attendre le peuple tchadien des conclusions de cette enquête? Cette commission s'est soit faite induire en erreur ou est elle-même complice d'une action d'escroquerie parce que le parti Les Transformateurs n'a reçu aucune demande de cette commission afin de mandater des militants pour être entendus. Des individus qui ont été aperçus à l'écran ne sont rien d'autre que des anciens transformateurs qui ont au vu et au su de tout le monde démissionné du parti, donc ils ne sont rien d'autre que des usurpateurs. L'usurpation et l'achat de conscience est connu de tous comme l'exercice favori qui maintient encore cette junte militaire en vie.
C'est aussi par le même canal que les membres de cette mission ont convié ce week-end l'ordre des avocats au barreau du Tchad pour un entretien.
Il nous a été demandé en tant que barreau quels sont les éléments que nous disposons par rapport aux manifestations violentes du 20 octobre 2022. Ça c'est leur terme, hein? Manifestations violentes. Nous nous sommes dit pourquoi ils utilisent manifestations violentes. Est-ce que ce n'est pas déjà une partie prise?
Le bâtonnier maître la guerre Ndjarandi Diangro se dit surpris qu'une telle mission se trouve sur le territoire tchadien sans explication préalable. Le bâtonnier s'interroge sur le mandat et la mission et sous les auspices de quelle institution l'équipe de cette mission constituée de 6 personnes, dont 3 de la CIAC et SENSA, des 3 facilitateurs travaillent. Maître Laguerre Ndjarandi Diangro fait des observations sur la forme.
Notamment la manière avec laquelle nous avons été conviés et le cadre qui nous reçoit. Et nous avons estimé que dans ces conditions, nous ne pouvons pas discuter avec cette commission parce que nous attendons encore la mise en place de la commission d'enquête internationale indépendante et qui doit être placée sous les auspices d'une organisation internationale crédible. Quand les membres même de cette commission nous disent que nous avons écrit aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine, etc., les réponses ne sont pas encore venues, mais il est question que nous commencions quand même. Allez-y comprendre qu'est-ce qui peut être derrière tout ça. Donc, pour nous, il est hors de question de faire confiance ou de travailler avec cette structure-là. C'est pourquoi nous avons appelé les autorités de transition à mettre un terme rapidement aux travaux de cette commission, parce qu'on ne peut pas minimiser les événements du 20 octobre. Il faut que la lumière soit faite de façon transparente.
Le 20 octobre est une journée sombre. De nombreux jeunes qui sont tombés sous les balles réelles des forces de défense et de sécurité à N'Djamena et dans les provinces du sud du Tchad, alors que ces jeunes au menu réclamaient le changement. Un silence du côté du gouvernement de transition qui ne communique pas sur la présence et l'indépendance réelle des membres de cette mission d'enquête internationale. André Kordouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'organisation locale Un Jour Nouveau a célébré Noël avec des enfants déplacés, forcés de fuir avec leurs familles. La guerre contre le groupe rebelle M23, ils trouvent refuge à Kanyarushinya, un village à 8 kilomètres au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Compte rendu avec Blanche Sanou.
De la musique, des sketchs et des cadeaux pour les enfants déplacés dans l'est de la RDC. Dans une belle ambiance, l'initiative de l'association Un Jour Nouveau a permis de partager des repas de Noël avec les familles ayant tout perdu en fuyant la guerre.
Dans nos villages, nos enfants fêtaient Noël comme il se doit. Mais je commençais à me demander comment nous allions faire. Par la grâce de Dieu, il y a des bienfaiteurs qui ont pensé à nous et sont venus avec quelque chose pour nous faire sourire à nouveau. Alors Noël s'est bien passé et je remercie beaucoup Dieu.
Cette année, plusieurs familles dans l'est du pays ont dû quitter leur domicile à cause du conflit opposant les forces armées de la RDC et des milices aux rebelles du M23, une ancienne rébellion de Tutsis congolais soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Ils se sont emparés de vastes territoires dans l'est de la RDC ces derniers mois.
Noël se passe bien, car les enfants ont mangé. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes des déplacés et nous voulons une aide à long terme. Certains sont assistés et d'autres non. Nous souffrons beaucoup et nous avons besoin d'aide.
Donner le sourire aux enfants déplacés, tel est l'objectif de l'association Un Jour Nouveau, selon son président.
Nous avons tous été victimes de ce qui est en train d'arriver ici à l'est du pays, mais l'une des choses que nous pouvons faire, c'est de démontrer cet amour, cette générosité, cette compassion, cette solidarité les uns vis-à-vis des autres. Que nous ne fêtions pas simplement dans le confort de nos demeures, mais que nous réalisions que nous pouvons semer des dons, des cadeaux, un sourire, donner l'opportunité à ces enfants d'également réaliser que Noël, eh bien, c'est un moment de réjouissance pour tous.
La mission de l'ONU en RDC accuse les rebelles du M23 d'avoir massacré le mois dernier au moins 131 civils dans l'est du pays et commis plus de 12 douzaines de viols selon une enquête préliminaire.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En 2022, l'économie mondiale a été en crise. Les conséquences de la pandémie de coronavirus ont été exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait monter en flèche les prix de l'énergie. Le reportage d'Henri Ridguel depuis Londres, récit Claire Morin-Gibou.
Au Ben Kramba importe des meubles d'occasion pour les revendre dans sa ville natale d'Accra. Mais il a du mal à équilibrer ses comptes. L'inflation au Ghana a atteint 40% cette année et la valeur de la monnaie a presque chuté de moitié par rapport au dollar.
Le montant que vous utiliserez pour importer, disons, un conteneur, ces jours-ci, il faut doubler ce montant. Les mêmes marchandises, la même quantité, mais le montant a été doublé.
Partout dans le monde, les banques centrales ont imposé de fortes hausses des taux d'intérêt pour tenter de maîtriser l'inflation alimentée par la flambée des coûts de l'énergie. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt à 6 reprises en 2022, ce qui a renforcé le dollar.
Les gens achètent des biens, ils vendent des biens, mais ce n'est pas au même moment. Si pendant ce temps la devise change, le fabricant ou l'acheteur peut perdre de l'argent. Et tout cela, rappelons-le, est aussi lié à l'inflation. Et pas seulement l'inflation, mais les anticipations d'inflation. Donc, si je vends des hamburgers, à combien dois-je les vendre? Maintenant, dois-je continuer à changer le prix tous les jours?
L'incertitude a frappé l'économie mondiale. Elle ne devrait croître que de 2,2% en 2023 contre plus de 5% l'an dernier.
La hausse des taux d'intérêt mondiaux augmente le coût d'emprunt et met sous une pression accrue de nombreux ménages, entreprises et gouvernements. La guerre de la Russie contre l'Ukraine aggrave également les conditions des pays à faible revenu. Beaucoup d'entre eux sont particulièrement vulnérables aux prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, et cela augmente le risque de surendettement supplémentaire dans ces pays.
Ces périls sont particulièrement ressentis au Sri Lanka, qui souffre de sa pire crise financière depuis son indépendance en 1948. Le gouvernement s'est retrouvé en défaut de paiement en mai, alors que l'inflation a atteint 70%.
Nous n'avons pas les moyens d'acheter du poulet, du poisson ou toute autre viande. Nous ne mangeons que des légumes et des feuilles. Il nous est même difficile d'envoyer nos enfants à l'école et même de leur fournir des repas convenables. Nous traversons une période très difficile.
Partout dans le monde, les travailleurs exigent de meilleurs salaires alors que l'inflation ronge leurs salaires. En Grande-Bretagne, les infirmières et les ambulanciers sont en grève.
J'ai dû réduire beaucoup de choses avec les enfants, ce que je ne peux pas me permettre à cause du coût de la vie élevé.
L'inflation devrait reculer légèrement en 2023. Mais avec la guerre en Ukraine qui fait toujours rage et les prix de l'énergie élevés, la nouvelle année apportera peu de soulagement aux milliards de personnes qui luttent pour s'en sortir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïmard, technique Kelvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.